Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, les grandes gueules du sport, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche jusqu'à midi. Merci de votre fidélité. Si vous avez raté la première partie de cette émission, sachez que nous débutons en direct à partir de 9h. Nous avons parlé du retour de la Ligue 1, de la crise que connaît le ping, le tennis de table. Également d'Antoine Camboire qui s'est payé les journalistes cette semaine, ou encore les vœux des GG en 2025. Bref, vous pouvez aller nous réécouter en podcast. Ça fait un carton. Nous avons battu un nouveau record au mois de décembre. Merci à vous si vous êtes sur la route des vacances, retour de vacances. Faites très attention à vous et on est très heureux de vous accompagner en ce samedi matin. Alors dans quelques instants, le programme continue. La seconde des GG, l'histoire du transfert avorté de Thomas Hurtel à Barcelone. 11h30, on continue nos bonnes habitudes. Le débat caché, les GG ne savent rien, elles sont dans le noir et pourtant, elles vont devoir débattre. Mais sur quel sujet? Quel est ton avis, Christophe Sessieux?
Tiens, un petit débat autour du Dakar. Le Dakar intéresse-t-il encore quelqu'un? Mis à part les médias du groupe Amaury qui organisent évidemment le Dakar.
Ok, pourquoi pas le Dakar? C'est un célèbre marronnier, hein, le Dakar.
Ouais, ouais, début janvier. Oui.
T'as vu, je l'ai pas fait cette année.
Non, c'est vrai. Donc c'est pas ça alors.
J'ai buri.
Donc dans
je
de me dire
fait
c'est
encore. Pas... Je ne l'ai pas fait
ouais,
encore.
Ouais, tu t'es vendu là.
On ne sait pas. David Douillet, le débat caché.
Bah, ils viennent me le piquer sous le nez. J'étais sur le Dakar moi aussi.
Ah, ok. Ouais, ouais. J'ai deux Dakar.
On aime bien les marronniers. Nous,
ouais. Pourquoi pas? Pourquoi
ouais,
pas, les copains,
on peut faire la sieste ou le marronnier, on est bien.
On pourrait parler de ski, de Coupe du Monde aussi. Hein.
Ok, voilà. Mais j'ai deux Dakar en proposition. Julien Beneteau.
Je te vois bien de me faire un truc sur le championnat du monde de fléchettes et la victoire.
Ça m'intéresserait.
Et la victoire du prodige Luke Littler qui est devenu le plus jeune joueur du monde.
Les mecs, ils sont énormes. Ils ressemblent à rien.
C'est un peu sportif. Génial.
Et pourtant, franchement, ça vaut un petit débat.
C'est passionnant à voir.
C'est passionnant.
Vous êtes sur la chaîne L'Équipe.
Il ressemble à rien. Mais c'est quoi cette
17 ans. 17 ans. Il s'est
lavé. Christophe.
Il joue aux jeux vidéo. C'est une star mondiale, enfin en tout cas anglo-saxonne.
Et le débat, moi j'avais choisi exactement le même débat. Je sais pas comment on a fait avec Julien pour trouver ce débat, mais moi je me disais comment à 17 ans on peut être champion du monde de fléchettes alors que normalement t'as pas le droit de rentrer dans un pub.
Exactement.
Donc c'était une vraie question.
Ok, parfait.
Parce que tu vas avec ton père.
Tu peux jouer au Dakar.
J'ai la différence de génération quand même. T'as les vieux, c'est le Dakar, et les jeunes, c'est les fléchettes.
J'ai deux fléchettes, deux Dakar. Avez-vous raison, les copains? En tout cas, deux très bons débats.
T'as dû trouver un truc vice-là. Comme d'habitude, ouais, peut-être. Sur le foot, à mon avis, ça doit être du foot. Vous savez quoi, 99% c'est du foot, de toute façon, il ne sait pas faire autre chose.
À 11h45, le 32-16, c'est à vous de jouer, évidemment, les auditeurs. Vous composez notre numéro, le 32-16, et vous venez affronter une GG sur un thème du jour. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Daniel Jouve, qui a dit un jour, on ne décide pas bien tout seul.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Hurtel se va de todos, el escorzo. ¿Quién tiene miedo? Don por encima de Tavares.
¡Oh, maman, ce shoot de Thomas Hurtel a 3 points!
Hurtel, con el defensor encima, adentro. Thomas Hurtel, les maldiciones. Hasta el 5-4-5-9.
Tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner.
Je veux pas de toi.
Ah non, on ne veut pas de lui. C'est un coup de théâtre, une volte-face inattendue et Thomas Hurtel joue encore le premier rôle. Sa vie de basketteur n'est décidément pas un long fleuve tranquille à Thomas Hurtel. Jeudi, El Mundo Deportivo a annoncé la signature et le retour du Français au FC Barcelone. Jusqu'à la fin de la saison, Thomas Hurtel avait donc pris l'avion depuis la Chine avec toute sa famille pour signer son nouveau contrat. Mais vendredi, patatras, comme on dit dans le jargon, le président Joan Laporta fait machine arrière alors que le meneur de l'équipe de France est à l'hôtel. La raison, la grogne de certains supporters mécontents de ce transfert, des supporters qui n'ont toujours pas digéré son départ du club en 2021 dans un contexte tendu. La musique qui fout les jetons est cette question. Les supporters ont-ils leur mot à dire sur un transfert? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Plutôt oui.
Plutôt oui. Julien Beneteau?
Non.
David Douillet?
Non, et archi non.
Fred Weiss?
Oui, dans ce cas précis.
Ok, ça fait deux oui, deux non. Décidément, une belle émission. Bravo les copains. Vous n'êtes pas d'accord et vous savez que j'adore ça. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket sur RMC. C'est Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Alors, quelle est l'origine du problème, pour bien comprendre la situation, l'origine du problème entre le Barça et Thomas Hurtel?
Alors, tout avait bien commencé en 2017. Joueur majeur, prolongation de contrat. Mais fin 2020, avec le nouveau coach Sarunas Yassikevicius, les relations se dégradent. Hurtel veut alors partir. Le clash intervient la veille de Noël. Le Barça est en déplacement à Istanbul. Le lendemain de la défaite, Hurtel se voit interdire l'accès à l'avion privé du club pour rentrer. Le Barça juge intolérable les tractations entre son joueur pas encore libéré et le Real Madrid, alors que le Barça pensait qu'il négociait avec Fenerbahçe. Finalement, Hurtel s'engagera libre en janvier avec l'ASVEL avant de finir par signer au Real Madrid à l'été 2021. En avril 2022, le Français est alors écarté du Real par le coach qui n'en voulait plus, direction le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. 2025, libre de tout contrat après une dizaine de matchs en Chine, Hurtel va donc signer jusqu'à la fin de la saison pour aider le Barça qui réalise une saison moyenne. Vendredi matin, il arrive donc avec sa famille, hein, ses deux enfants, sa femme à l'aéroport de Barcelone, tout sourire. Il s'est même exprimé devant quelques médias. Il devait même prendre le numéro 3, c'était fait. Mais quelques minutes plus tard, il apprend que le Barça décide de tout arrêter. Dans l'après-midi, Hurtel et son agent tiennent une conférence de presse improvisée pour dénoncer ce traitement.
J'étais très content de venir ici, de rejoindre ce club et de reprendre ma carrière dans un grand club. J'ai parlé avec les entraîneurs et les dirigeants. Ils étaient aussi très contents que je vienne. Puis j'ai atterri à Barcelone et j'ai appris la nouvelle. Je suis évidemment très triste.
Pour l'agent, la décision de ce revirement vient de Josep Cubels, directeur de la section basket, juste en dessous de la Porta, qui est quand même pour les médias catalans le responsable de cette situation. Le club évoque une pression populaire des supporters. Hier, le Barça était en déplacement à Paris, ils ont d'ailleurs gagné. Le coach Juan Peñaronia avait appelé Hurtel pour s'excuser, il a déclaré ça publiquement.
Today is a difficult day for everybody, the club, but it's not a moment. Tonight is not a question for me.
Un jour difficile pour tout le monde, pour le club, c'est pas une question pour moi en ce moment. Hurtel n'exclut pas de porter l'affaire devant les tribunaux en demandant des dommages et intérêts.
Merci beaucoup Arnaud Valadon, tu restes avec nous évidemment pour ce débat, toi qui connais bien cette affaire et évidemment cette carrière de Thomas Hurtel, ce transfert avorté, on en parle dans les grandes gueules du sport. Les supporters ont-ils leur mot à dire sur un transfert? Il y a deux oui, deux non, vous pouvez nous appeler évidemment au 32-16. Fred Weiss, pourquoi oui?
Oui, parce que le Barça est un club particulier. Alors on parle, c'est pour ça que j'ai dit oui dans ce cas de figure précis, parce que le Barça est un club particulier. C'est un club qui est composé de socios, et les socios sont propriétaires du club. Donc à partir de là, quand on bosse entre guillemets, celui qui élit le président du Barça décide de façon publique de choisir ça. Je pense que t'as pas le choix, t'es obligé d'écouter. Mais je suis plutôt défavorable en général, et je trouve que l'attitude du Barça est juste scandaleuse. Parce que comme Arnaud l'a dit, il a quand même pris l'avion depuis la Chine pour venir avec sa famille, il s'est déplacé, et au dernier moment tu changes d'avis. Je trouve que ça manque d'un président fort. Il faut prendre des décisions à un moment. Les décisions n'ont pas été prises. Vous savez ce que je pense de Thomas Hurtel. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, ce qu'il a fait avec l'équipe de France, ce qu'il a fait en signant au Zénith Saint-Pétersbourg. Pour moi, je trouve ça absolument scandaleux. Mais à un moment, faut quand même respecter les êtres humains. Ils l'ont fait se déplacer avec sa famille pour signer un contrat, et au dernier moment, ils disent que non. Je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est pas digne d'un grand club comme le Barça, club que par ailleurs j'admire énormément. Mais là, je suis désolé, c'est absolument scandaleux. Je soutiens Thomas Hurtel, je soutiens sa famille. C'est un moment difficile parce qu'encore une fois, ils se sont déplacés pour ça. Et quant à l'espérance du revenir, en fait,
et Thomas Hurtel, s'il veut vraiment trouver un club, il trouvera un club.
Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que Thomas Hurtel est quand même en marge de ce qui se passe actuellement dans le basket, parce qu'il est parti en Russie, parce qu'il est parti en Chine. Donc il avait envie de se réapproprier l'Euroleague, de se réapproprier l'Europe, de redevenir un joueur majeur, de peut-être revenir avec l'équipe de France. Donc il faisait son chemin de croix. Tout se passait très bien, et d'un seul coup, une personne, parce que des gens ont grondé, dit que finalement le contrat n'aura pas lieu. Je trouve ça scandaleux.
Ok, archi contre, les supporters ont-ils leur mot à dire, David Douillet?
Bah oui, parce que enfin à la tête de ce club, il y a évidemment des dirigeants. Et je comprends ce que tu dis, Fred. Hein, il y a quelque part des actionnaires, mais dans n'importe quelle boîte, les actionnaires ou alors ils décident de virer les dirigeants pour la, par rapport à la gestion du club, mais c'est pas eux qui décident de diriger l'entreprise, tu comprends?
Oui, mais c'est des actionnaires particuliers, c'est pas tout à fait la même chose, oui. C'est pas des actionnaires qui sont là juste pour l'argent. Eux, ils ont un droit de regard entre guillemets par rapport à aux sportifs aussi.
Particulier. Si tu peux pas sur le fond, le président. Si tu peux pas, oui, je sais, mais au moins mais s'ils sont pas contents, ils le virent. Ouais. Mais en tout cas, ils ont pas interféré quant à la gestion du club sur le quotidien. Et là, on est dans la gestion du club au quotidien, comme au sein d'une entreprise, les actionnaires n'interfèrent pas sur la gestion d'une entreprise au quotidien. Mmh. Et ils prennent une décision à l'issue quand on rend les résultats, quand on rend la copie. Mais quand il s'agit de faire telle ou telle action, telle ou telle mesure, les actionnaires ils restent actionnaires. Point barre.
C'est un club particulier. Donc,
là, on est dans un.
C'est quasiment.
Mais si on commence à laisser la porte ouverte là-dessus, tu peux plus rien faire. Donc autant rendre les clés tout de suite. Il y a plus de dirigeants, il y a plus rien, et c'est les socios qui se débrouillent. Parce que c'est ça, en fait, la fin de l'histoire.
C'est un cas particulier, Hurtel, encore une fois, parce qu'il a négocié dans le dos du Barça.
Il voulait partir au Real Madrid.
Et c'est des ennemis vraiment. En fait, c'est pas des ennemis de façade.
J'ai compris,
c'est
les gars.
C'est une bataille, c'est quasiment une bataille. Entre le Barça et le Real. Quand le mec, il conclut en douce un contrat avec le Real, imagine la réaction des supporters du Barça. Et quelques années plus tard, voilà que le président dit, tiens, on va reprendre le RTL. Mais ça les a.
Mais
ça les rend dingues, les supporters.
Quel que soit l'exemple, si tu gouvernes contre tes supporters,
est-ce que les supporters... tu vas dans le mur, David. Tu vas dans
est-ce
le
que
mur.
Les supporters il... doivent décider.
Ce qui se passe à l'échelle politique entre un gouvernement fait tout pour énerver son peuple, ça finit par lui retomber sur le bout du nez. C'est exactement la même chose avec le Barça, avec leur président. Il doit être réélu ou non en 2026. Ça approche très, très bientôt. S'il se met à dos la plupart des supporters catalans, parce que ceux-ci ne veulent pas de Hurtel qui a voulu aller au Real il y a quelques années. On le comprend complètement.
L'erreur, mes amis, c'est de ne pas en avoir parlé
avec les groupes de supporters avant.
Pour tester,
pour voir un peu ce qu'ils pensaient du retour de Hurtel dans le club. Voilà l'erreur de Laporta. Et effectivement, après, ils se retrouvent tout penaux en disant je suis obligé de pas le faire.
La question est simple.
C'est
une paix sociale, mais
est-ce que c'est aux supporters de décider pour un club?
Non.
Si Nasser ou l'émir a envie d'un joueur, c'est pas les supporters du PSG qui vont le faire changer d'avis. Mais on est dans un cas particulier, celui du Barça, qui est une équipe nationale, l'équipe de la Catalogne.
D'accord, mais la réalité sportive, elle prédominera sur tout le reste. Si Laporta il dit OK, il présente Hurtel, je sais. Vous êtes pas content, mais en ce moment on n'est pas très bien en Euroleague. Et avec Hurtel, on a de grandes chances d'aller au Final Four. S'il finit
Final
Four,
tu crois que lui il va faire renverser la.
Tu sais que c'est juste une question. Ça veut dire que, en gros, ça se passe bien. Effectivement, tout le monde dira bravo, mais si ça se passe mal. Tout le monde va lui tomber dessus et tout le monde votera contre lui en disant en plus, t'as pas respecté les valeurs de notre club. Okay. Donc,
excusez-moi, mais j'ai peut-être pas compris la question.
David.
J'ai peut-être pas compris la question. Parce que pour moi, la question, c'était la chose suivante. Est-ce que si on laisse la porte ouverte au fait que les supporters peuvent décider de la gestion du club, mais à l'instant T, en direct, est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore? La réponse est oui. Voilà, c'est ça que je dis, moi. Je ne parle pas de la particularité du Barça, contre la vie de la majorité, David.
C'est pas possible, ça s'appelle la dictature.
Tu ne peux pas gouverner avec, en ne respectant pas les règles de la hiérarchie. C'est ingouvernable. Ou alors, tu te dis, le système, il y a 15 000, je dis n'importe quoi, il y a 15 000 ou 100 000 actionnaires ou socios, et c'est à vous de décider. Donc on fait des référendums en permanence. La vraie histoire, nous montre que c'est impossible. Tu ne peux pas diriger comme ça parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information et que tu vas droit dans le mur.
Il y a eu un cas similaire à Nice il y a quelques temps. Yannick Cahuzac, ancien joueur de Bastia, qui a eu maille à partir avec les supporters niçois lors d'un match qui avait eu lieu en 2014, je crois, et il a failli revenir, il est depuis devenu entraîneur, il a failli revenir à l'EGC Nice, et les supporters niçois se sont insurgés contre ça, et le président du club et les dirigeants sportifs ont été obligés de faire machine arrière parce qu'ils ne voulaient pas.
Voilà.
Mais, si, c'est... Non, mais on voit ce qui se passe, hein, dans, et regarde, dans, mais regarde dans la vraie vie. Regarde ce qui se passe.
Il y a des contre-exemples partout.
Parce que t'écoutes la majorité, les gens qui t'amènent tomber en venant au stade tous les semaines. Eh ben, écoute, d'accord, c'est ça, si t'appelles ça baisser ton froc, eh ben, chacun sa conception.
On a compris un peu, vous deux. Attendez. Non, mais, et c'est pas une question d'exemple ou de contre-exemple. C'est juste savoir si à un moment donné, des supporters ont agi. Attends, c'est pas ça. Toi aussi, t'aimerais qu'on te laisse parler. Laissez-moi.
Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Non, ça va, toi.
Donc, tu nous parles d'un exemple. On veut savoir si un supporter peut influer sur le transfert d'un joueur dans son club. C'est bien ça notre débat et c'est ce qui s'est passé avec Thomas Hurtel. Si on sort du cas Barcelone avec les Socios, tu as parlé d'un cas avec Cahuzac. Moi, j'en ai un autre avec Anthony Mounier. On est en 2017. On est en janvier 2017. Il joue à Bologne. Il trouve une porte de sortie pour aller jouer à Saint-Etienne parce que Saint-Etienne est mal en point. Sauf qu'Anthony Mounier, c'est un joueur
de Lyon.
Formé, qui est passé et qui a été formé à Lyon. Et un jour, quelques années auparavant, je crois 5 ans auparavant, avec le maillot de Nice, il avait marqué un but et il avait déclaré « on a les Verts ». Enfin bon, c'est un mot pas très gentil pour les Verts. Voilà. Et ben les supporters étaient contre ce transfert. Il est quand même arrivé à Saint-Etienne.
Et là, c'est
il a duré.
Il a pris le feu.
4 jours. Et il était même prêt, lui, à dormir au centre d'entraînement pour qu'il n'y ait pas de problème avec les supporters s'ils quittent le lieu d'entraînement. Il voulait rester en catimini, mais rester chez les Verts. Au final, il est resté 4 jours. Donc là, c'est pas une question de Socios, c'est une question que les Verts ont fait pression pour qu'ils ne signent pas dans leur club. Greenwood, à Manchester, je parle pas du cas avec Marseille et tout ça, mais à Manchester, c'est un joueur de Manchester. Manchester doit le récupérer parce qu'il est en forme, mais il y a cette histoire avec sa femme qui a porté plainte pour coups et blessures. Eh ben, Manchester a dû s'en séparer, et c'est pour ça que finalement il est parti en Espagne et qu'il est arrivé à Marseille. Les supporters ont influé. Est-ce que les supporters, à un moment donné, ont leur mot à dire? C'est l'objet de notre débat.
Moi, je pense
hormis
que...
les socios, évidemment. Voilà. Arnaud Valadon,
alors, ce qui rend sur l'affaire Hurtel, après, il y a aussi le côté assumé des actes antérieurs. Et on le voit, il y a eu, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Il y a eu quelque chose au début qui a excité un peu tout le monde. Mais sur le cas Hurtel, ce qui rend l'affaire un peu plus extraordinaire, c'est un club qui revient sur sa parole. Et c'est ce que soulignent les médias catalans. Les supporters d'un côté, ils se disent pas on a gagné et tout, on était mécontents qu'ils reviennent, fallait peut-être qu'ils s'excusent et tout, mais les médias disent au Barça quel déshonneur, vous avez fait venir un homme, vous avez payé des billets d'avion à un homme et sa famille et vous renoncez sur votre parole, quel manque d'humanisme. C'est aussi ça qui est souligné par les médias catalans. Ce qui rend en fait l'affaire, c'est un club qui a dit ok, tu viens, on te fait venir, et t'arrives à l'aéroport, ah bah non, c'est fini.
Mais que tu sondes tes supporters au début, et Christophe a dit tout à l'heure que tu les sondes au début en disant est-ce que vous voulez que Thomas Hurtel vienne ou pas, là que les supporters influent, oui, je pense que c'est plutôt bien, mais à partir du moment où tu as donné ta parole en tant que président, tu dois plus revenir dessus.
En fait, il faut sonder par exemple un cas comme Adrien Rabiot. Alors, c'est déjà arrivé, hein, les transfuges au MPG,
mais il faut sonder, mais il faut prendre, il faut sonder, d'accord, mais il faut, les supporters, ils sont là pour supporter, les dirigeants, ils sont là pour diriger. Il y a un supporter de Marseille qui se pavane d'avoir fait virer Didier Deschamps quand il était entraîneur de l'OM, et depuis l'OM, ils ont plus gagné un seul titre. Donc il faut de temps en temps
Rachid Zeroual.
Voilà, il faut chacun, il faut rester à sa place. Là, tu as bien, Arnaud, tu as bien résumé. Le truc, c'est que le Barça revient sur une parole.
Et ça peut être très compliqué. Et je pense que Thomas Hurtel va se retourner contre le Barça, et il aura raison, parce que ça n'a pas
Thomas Hurtel, ok, c'est dur pour lui, c'est dur pour sa famille. Faut pas non plus qu'il joue trop la victime. Quand il était au Barça, il a voulu aller au Real. Après, il est parti en Chine.
Il est parti en Russie.
S'il veut jouer un club en Euroleague, il en trouvera un. Je me fais pas de soucis pour lui.
Alors, je suis d'accord avec David, c'est pas le débat. Et deux, pardon, mais souvent on ressort cette histoire en disant il a voulu aller à Madrid. Mais je parle sous couvert de Fred et d'Arnaud. Il est peut-être allé, mais le Barça n'en voulait plus. Le Barça l'a dégagé.
Mais oui, mais à cause de ça, mais c'était à cause de ça.
Il voulait se débarrasser par rapport à Jacques-Kivicius, qui s'entendait pas très bien avec lui et qui voulait qu'il
y ait une rôle
mineur. Ils ont été vexés qu'une de ses portes de sortie soit le Real en douce.
Sauf que c'est eux qui ont voulu le virer quand même. À un moment donné.
Un moment que lui a envie d'aller dans un très grand club comme le Real Madrid, quand t'es viré du Barça, je trouve qu'il n'y a rien
de tout. Il a qu'à aller au Real, là. Pourquoi il n'irait pas au Real?
Parce qu'il n'y a pas trop la place.
C'est un peu plus compliqué. Il y a Facundo Pazzo, par exemple, c'est très très fort.
Il peut aller à la JL de Bourg-en-Bresse.
Oui.
Il a perdu le relais en quart.
Il regrette en France parce qu'il n'y a pas assez d'argent. On se rappelle.
Oui, là, on parlait de 400 000 euros pour finir la saison.
À Saint-Pétersbourg, c'était je vais là-bas parce que j'assure l'avenir de ma famille sur 15 générations.
C'est un peu ça, Fred.
Oui, mais il veut continuer. Je pense qu'il veut faire 16, 17, 18 générations, je pense maintenant.
Il peut aller où alors?
Mais je pense qu'il trouvera en Europe. Objectivement, je pense qu'il trouvera en Europe parce que c'est quand même un joueur de qualité. Encore une fois, quand on intéresse le Barça, c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'on reste un joueur de très grande qualité. Après, il faut des opportunités. C'est là que c'est peut-être.
Je dis n'importe quoi, mais là, le Paris Basketball.
Pour dire que les.
Alors, Paris Basketball, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas du tout besoin de lui au Paris Basketball, par exemple. Je pense qu'il y a ce qu'il faut sur son poste.
Qui avait déjà refusé Evan Fournier. Hein.
Oui, parce que c'est pas leur façon aussi de voir les choses. Ils veulent pas de stars, entre guillemets.
Et c'est pas le même prix.
Ok. Il y a Yves qui nous appelle au 32-16. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Il veut participer à notre débat sur le dossier donc, et ce transfert avorté à Barcelone pour Thomas Hurtel. Tu en penses quoi?
C'est à l'image de ce que fait le Barça général. On voit ce qu'ils font au football. C'est une catastrophe. Puisqu'ils vendent les bijoux de famille pour... essayer de diminuer leur déficit qui est colossal. Et puis, au niveau du basket, je pense que c'est comme au football, quand on passe d'un club cher à un club ennemi, on passe du Barça au Real, les sociaux, ils s'en rappellent. Je suis d'accord avec Fred, ce qu'il avait dit en tout début d'émission, sur le fait qu'il fait son chemin de croix pour revenir en Euroleague, pour revenir peut-être en équipe de France, parce qu'il peut apporter... sur le jeu, notamment sur le pick and roll. Mais il a fait un choix d'aller à Saint-Pétersbourg ou en Chine pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est pas offensant. Bon, il a accepté la sanction de pas aller en équipe de France. Maintenant, pour revenir à la JL, puisque je suis supporter de la JL...
C'est un bon choix, en général.
Ouais, c'est un bon choix, mais bon, on a pris malheureusement Jefferson, qui met pas un pied devant l'autre parce qu'il est pas dans le rythme. Mais c'est vrai que Thomas Hurtel à la JL, ça serait même pas un cadeau de Noël, c'est un truc impossible. Mais pour en revenir au fait que est-ce que les supporters ont le droit de refuser un transfert ? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, avec David, avec tout le monde, avec Julien. Ouais, je pense que les dirigeants de Barça, ils n'ont pas réfléchi avant. Ils savaient que ça allait, ils n'ont pas réfléchi que ça pouvait péter. C'est comme dans le football, quand on recrute un joueur, comme il a été dit. Comme Adrien Rabiot qui vient à Marseille, les Parisiens, quand il va y aller, il va se faire siffler, voire pire. Voilà, c'est à l'image du sport en général, et je trouve ça que c'est bien dommage.
Oui, mais à un moment donné, il y a des institutions fortes, et on se rappelle par exemple l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire avec Wai, qui avait déclaré
qu'il
ne porterait jamais le maillot de l'OM, et l'OM, institution forte, a dit non, mais si, on prend ce joueur, et puis vous allez avaler quelques couleuvres à mes supporters. Et finalement, c'est passé, même si Wai s'est rapidement fait siffler au Vélodrome. Mais en tout cas, l'institution n'a pas fait avorter et fait capoter un transfert.
Oui, mais c'est pas exactement pareil, hein, de dire que je porterai jamais le maillot de l'OM et vouloir signer avec le Real Madrid en douce, etc., c'est un peu plus compliqué pour les supporters quand même.
Ok, bon, merci Yves d'avoir composé le 32-16. Si vous voulez parler de ce débat, reparler de ce débat, le 32-16, évidemment, les GG et vous, c'est à 11h45 ou un autre débat, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. Merci beaucoup Arnaud Valadon pour toutes ces précisions sur le cas Thomas Hurtel, des précisions que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. Allez, tout de suite, le débat caché. J'ai eu deux belles propositions, j'ai eu les fléchettes et j'ai eu le Dakar. Ça n'a rien à voir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Julien Beneteau, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, soyez présents au rendez-vous, premier rendez-vous de l'année pour vous, le 32-16, les GG. Vous êtes-vous aussi des grandes gueules? Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour? Vous venez lui dire en face. On a parlé du cas Thomas Hurtel, on a évoqué le retour de la Ligue 1. Est-ce qu'elle est passionnante en cette deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain qui a 10 points d'avance? On a évoqué aussi la crise dans le milieu du ping ou encore la sortie fracassante d'Antoine Camboré en conférence de presse. Venez nous dire ce que vous en pensez. Composez donc le 32-16. Ça va partir dans quelques instants. Ça se passe à Brisbane, demi-finale de ce tournoi ATP 250 entre notre Français Giovanni Mpetshi-Perica et Opelka. Léna Marjac va suivre ça pour nous. Rebonjour Léna.
Rebonjour JC, rebonjour à tous.
Dis donc couteau suisse, hein, Léna Marjac, ce matin. Elle nous a parlé brillamment de ski, évidemment, c'est sa spécialité. Brillamment de ping, c'est également sa spécialité. On va vérifier si le tennis est également l'une de ses spécialités. Léna Marjac, le match va bientôt débuter. C'est sa troisième demi-finale en carrière à notre Français. retraite.
Oui, Giovanni Mpeci Péricard, qui avait déjà très bien terminé la saison 2024, eh bien, il reprend cette saison 2025 de la meilleure des manières. Il est en demi-finale aujourd'hui à Brisbane, après avoir éliminé au premier tour Nick Kyrgios, ensuite l'Américain Frances Tiafoe, et hier en quart de finale le Tchèque Jakub Mencic. Aujourd'hui, il fait face à un autre géant, c'est Reli Opelka. Giovanni mesure 2m03, mais face à lui, il est plus grand que lui, 2m11 pour l'Américain, qui a été absent pendant 2 ans du circuit en raison de problèmes et de blessures aux hanches et aux poignets. Mais il est de retour, et d'ailleurs l'Américain a réalisé le grand coup de ce début de saison, parce que hier, en quart de finale, il a éliminé l'ancien numéro 1 mondial, 8e actuel, c'est le Serbe Novak Djokovic. Une victoire donc en 2-7, ça va être un gros morceau pour Giovanni Mpeci Perica. On risque de voir aussi peu d'échanges, parce que ce sont deux gros serveurs, pour vous dire, hein. En 3 matchs, Giovanni Mpeci Perica a claqué 75 aces, Opelka 50. Donc voilà, un duel de grands, un duel de gros serveurs également. On a hâte que ça commence, et ça va commencer dans quelques instants sur cette Pat Rafter Arena à Brisbane.
Elle sait tout faire, Alena Marjac, merci beaucoup. Giovanni Mpeci Perica, qui n'a pas encore perdu sur son service, il n'a pas concédé de jeu, notre ami français, sur cette rencontre. Est-ce que c'est un beau match comme ça entre deux gros serveurs, ou franchement c'est pas le match qu'il faut regarder à tout prix?
Je serais Denis Charvet, je mettrais une pièce sur au moins un tie-break.
Ça, c'est un conseil des paris, ce sera retrouvé à partir de midi. Merci beaucoup pour la passe décisive, mon cher Julien Beneteau. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, et pourtant elles vont devoir débattre, réagir sur l'instant à un problème donné. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, c'est évidemment l'essence même de cette séquence, parce que je sais que vous travaillez ardemment vos autres sujets, mais celui-ci, vous ne savez rien. Alors le débat caché, votre guet-apens, c'est ça.
Le centre à venir de Machado au deuxième poteau, une tête marseillaise, Loïs Openda qui récupère, elle cherchait dans le fond, attention avec Seko Fofana, la frappe de Fofana, le but de Seko Fofana, quelle frappe, et Paul Lopez ne peut rien faire. Oh, c'est la folie sur le Stade Bollaert, Seko Fofana qui trouve le poteau tout à l'heure, puis pour sa deuxième tentative, il débloque la situation.
C'est une archive, Seko Fofana avec Lens. Parce que c'est une situation inédite sans précédent en France qui arrive. Mercredi, Seko Fofana s'est engagé avec le Stade Rennais après un an et demi passé en Arabie Saoudite. C'est pas ça la situation inédite, évidemment. Un retour en France et une question. Y a-t-il conflit d'intérêts? Parce que lorsque le capitaine de Lens a quitté la Ligue 1 à l'été 2023, il est devenu actionnaire minoritaire du club sans et or pour accompagner, je le cite, la croissance du club. Aujourd'hui, le milieu de terrain ivoirien est donc toujours actionnaire de Lens, mais également un joueur de Rennes. Deux clubs aux ambitions similaires, à savoir une qualification pour une Coupe d'Europe en fin de saison. Notre débat, Seko Fofana, actionnaire de Lens. Donc il touche des intérêts sur les performances de Lens, vous avez bien compris. Il décide aussi de certaines décisions stratégiques. Et joueur de Rennes, est-ce que ça vous gêne? C'est très simple. Est-ce que cette situation vous dérange? Fred Weiss.
Non.
David Douillet.
Oui.
Julien Beneteau.
Oui.
Christophe Cessieux.
Je sais pas.
Je le sentais totalement perdu, Christophe.
Je sais pas du tout. Je sais même pas qui est Fofana.
Ok, cool.
Je vais réfléchir. Je vais lire un peu.
Très bien. Des trucs, tu peux lire et tu nous donnes ta réponse dans une demi-heure ou demain matin.
Il est toujours actionnaire, mais il a démissionné de son rôle au conseil d'administration.
C'est une information qui est parue hier soir de La Voix du Nord. Tu vas pas me bloquer là-dessus, mon cher Julien. Il a démissionné. Il a donné sa lettre de démission du conseil d'administration du RC Lens. Donc, il ne décide plus. Il ne siège plus au conseil d'administration, mais il est toujours actionnaire, donc toujours intéressé. Il gagne de l'argent sur les résultats, évidemment, du RC Lens. Gêné, pas gêné.
Je suis pas sûr qu'il gagne de l'argent.
Bah, c'est un actionnaire.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il gagne de l'argent. C'est pas. Tu vois, c'est.
Pardon, il a mis des billes en contrepartie. Oui, il reçoit de l'argent. Est-ce qu'il vit suffisamment avec ça? Je sais pas. Mais en tout cas, il est forcément intéressé sur les résultats du club et la croissance du club.
Tu crois que le club de Lens distribue de l'argent? Je suis pas sûr. Hein.
Des dividendes.
Pas sûr du tout.
Les dividendes à ses actionnaires en fin d'année, je sais pas, c'est comme ça que marche une entreprise.
Mais
oui,
attends,
l'argent pour que ce soit le cas.
J'y sais. Tu distribues des dividendes quand tu gagnes des sous. Merci Fred. Si tu gagnes pas de sous, tu distribues que dalle. Et je suis pas sûr que Lens gagne quelque argent.
En fait, là où il peut gagner, c'est quand il y aura quelqu'un qui va racheter le club. Et
voilà, quand il y aura une revente, tu vois.
Oui, donc il a quand même intérêt à ce que le club aille loin.
Bien, ouais.
Et donc comme il va être adversaire de ce club, est-ce que c'est là que le bas blesse
deux fois dans l'année.
Deux fois dans l'année, il joue aussi une place européenne. Enfin, je veux dire.
Écoute, à ce moment-là, tu y joues pas contre Lens.
Très
quoi.
Sincèrement, la question c'est est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt. La réponse est oui, il y a un conflit d'intérêt, évidemment.
Oui.
Et là-dessus, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est.
Pour moi, c'est super simple.
Aujourd'hui,
c'est un joueur de foot. Donc, il va jouer. Il va jouer au foot. Il s'en fout d'être actionnaire ou pas quand il est sur le terrain, à mon avis. Ouais. Et je pense que ce serait méconnaître les sportifs au niveau et dont Julien et David font partie. Quand tu joues, Christophe aussi à sa manière. Mais quand tu joues, t'es à fond pour le jeu, t'es à fond pour l'équipe pour laquelle tu défends le maillot. Peu importe ce qui se passe après. Alors, est-ce qu'il va, quand il ne jouera pas contre Lens, est-ce qu'il va les encourager? Est-ce qu'il va être pour eux? Est-ce que, bien sûr, il voudra qu'ils gagnent? Évidemment. Mais quand il joue contre eux, le but d'un sportif, c'est d'être le meilleur possible sur le terrain.
Raison. Et
Fred, il va pas commencer.
Alors là, il y a des intérêts économiques, mais quand il y a des intérêts sportifs, quand par exemple, au rugby, on sait qu'il y a des entraîneurs qui vont passer dans un autre club la saison d'après avant que la saison soit terminée et que t'as intérêt à ce que ton club finisse sixième pour jouer à la Champions Cup et que toi tu fais quoi tu paumes contre ton club contre ton futur club non il y a toujours des situations où il y a des conflits d'intérêts. Je pense qu'effectivement Fofana quand il va jouer au foot avec Rennes il va faire tout pour que Rennes gagne. Après dans les faits je suis d'accord avec David, dans les textes il est actionnaire.
Alors, je pense qu'il gagnera plus d'argent avec son salaire qu'avec les dividendes qu'il touchera avec l'Arsenal.
Évidemment, mais c'est une question de principe. En fait,
est-ce que ça existe dans d'autres sports, dans d'autres ligues
Vous voulez acheter.
Attendez, juste David Douillet termine sa phrase quand même, les copains, et après vous pouvez y aller.
Non, mais enfin, oui, on a tout dit. C'est-à-dire que est-ce qu'on accepte le fait qu'un joueur qui professionnel qui est toujours en exercice dans une ligue soit actionnaire d'un club de cette même ligue? La réponse est non, parce que l'histoire nous montre, et Fred t'as raison, hein, les joueurs normalement à 95% peut-être 99% sont honnêtes, mais il y a des joueurs et des athlètes qui sont pas honnêtes, qui sont capables de truquer ou de lever le pied malheureusement, et c'est pour ça qu'il faudrait décider d'une règle en la matière.
Le problème c'est que de règles aujourd'hui là-dessus sur ce cas-là n'existe pas, parce que ce que dit le code du sport, c'est l'article L 122-7, il est interdit à une même personne privée de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline. Le problème, c'est qu'il n'est pas dirigeant deux clubs. Il est salarié d'un côté et dirigeant de l'autre.
Intervenir et mettre un...
Non, la Ligue a donné son accord.
Ah bah oui, mais en même temps, quand le président de la Ligue intervient sur certains transferts...
C'est en régalien de le faire,
foot,
c'est dans le code
pas.
Du sport.
Ça m'étonne pas.
C'est dans le code du sport, c'est en régalien de le faire. C'est... Voilà, il faut le mettre, faut l'écrire dans la loi, et puis c'est fini, quoi. C'est pas grand-chose à faire.
Il a qu'à filer ses actions à sa femme ou à ses enfants, et puis...
Ce qui ne change pas.
Ouais, mais là c'est pareil. C'est pareil.
Non, mais par exemple, il y a ce match entre Lens et Rennes le 16 mars prochain. On sait que souvent, quand un joueur est prêté par un autre club, il est mis dans le contrat qu'il ne pourra pas jouer contre son ancien club, en tout cas son. Et est-ce que là, il peut jouer face à Lens? Est-ce que c'est possible?
Oui, encore une fois, moi je pense qu'il
va le texte l'autorise.
Il est en contrat, le texte l'autorise. Lui, je vois pas pourquoi il serait malhonnête avec lui-même et je se donnerait pas à fond.
Il a intérêt à donner à fond parce qu'il a Sampaoli sur le banc. Donc s'il va pas se donner à fond, c'est clair. Dire qu'au bout d'une demi-heure, il va sortir. Sampaoli, il va pas hésiter.
Ok.
Et puis voilà.
Donc pas plus dérangé que ça, mais je trouvais que c'était important de parler de cette situation inédite.
Ça aurait été mieux les fléchettes, mais bon.
C'est cette
situation.
Il y a des endroits plus rentables, en fait, pour investir.
Ah, tu en as quelques-uns à nous donner, David?
Il a des bipartout,
oui,
David.
Oui, sous consultation et moyennant et aucun problème.
Il perd pas le Nord, t'inquiète.
Bah, je vais prendre
le Nord, c'est compter les sous.
Est-ce que les pilotes du Dakar jouent aux fléchettes le soir? Tu vois, un débat...
Transverse. Un débat transversal. Ah oui. Ouais, ce serait... Et on réunit tout ça dans un n'importe même débat. Quoi. Ok. On pourrait faire ça. Ou alors, dans ces cas-là, je peux vous donner à chaque fois l'intitulé du débat caché. Et puis, comme ça, c'est plus un débat caché. Peut...
C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien l'idée. Aussi, j'aime beaucoup l'idée.
Demain, il y aura un nouveau débat caché à partir de 11h40. Et peut-être qu'on parlera des fléchettes. Peut-être. Mais c'est pas sûr.
C'était un intéressant débat.
Merci beaucoup, mon cher David. Heureusement que tu es là dans cette émission. 11h43, les copains. On se retrouve dans quelques instants. Elle est jalouse, hein.
Ouais.
Ça se fait des lipettes, hein.
Sur le groupe WhatsApp.
Entre les deux, ça
arrête pas.
Je félicite David Douillet. Ouais, je vois que tu fais la gueule.
C'est bon. On a remarqué que moi, je me fais jamais féliciter.
Jamais. Il est crépi.
Tout le monde veut sa petite récompense.
Ouais, bah oui. 2025, c'est comme ça.
Vous êtes tous des légendes et vous
avez de la bienveillance.
Qu'un animateur comme moi, inconnu au bataillon, vous donne des petits bonbons. C'est ça, les copains?
Ça fait du bien.
Bon, bah, parfait. Maintenant, je saurai, les copains, je vous donnerai un petit peu de carottes. 11h44, on se retrouve dans quelques instants. Les GG et vous, c'est à vous de décider, chers auditeurs, des débats à suivre dans cette émission. Vous voulez revenir sur un débat du jour? Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Fred Weiss. À partir de midi, restez bien avec nous. Les paris RMC autour de cette nouvelle journée de Ligue 1. On vous donnera toutes les meilleures cotes, évidemment. Et on parlera aussi de ce match en cours, car ça s'appelle du live betting entre Giovanni Mpetshi, Perica et Rémi Opelka. C'est la demi-finale du tournoi de Brisbane. Léna Marjac, ça a débuté.
Oui, ça a débuté. Premier jeu pour Rémi Opelka et c'est maintenant Giovanni Mpetshi, Perica qui est au service. Mais premier jeu de service compliqué pour le jeune français de 21 ans. Deux doubles fautes dans ce même jeu. 40 à donc dans ce deuxième jeu du premier set entre le français et Rémi Opelka. L'échange est en cours et là on voit le français déborder sur ce coup droit. Ça sort et donc première balle de break de ce match. C'est pour l'américain. Attention, on l'avait dit, c'est un candidat quand même costaud parce que même s'il a été absent pendant 2 ans du circuit en raison de grosses blessures à la hanche et au poignet, eh bien il revient en forme. Il mesure 2m11 et hier il a été vraiment étincelant face à Novak Djokovic. Il l'a battu en 2-7. Donc première balle de break à sauver là pour Giovanni Mpetshi Perikar avec son gros coup droit. Il fait reculer un petit peu l'américain, mais l'américain qui reprend le devant avec un gros revers long de la ligne. Et donc break d'entrée pour l'américain Opelka qui mène donc 2-0 face à notre français Giovanni Mpetshi Perikar dans cette demi-finale à Brisbane.
Et c'est une petite sensation, c'est la première fois qu'il se fait prendre son service à Brisbane.
Et surtout le fait que ce soit contre Opelka qui n'est pas le plus grand relanceur du circuit, comme quoi c'est voilà, ça se joue au-delà que juste le service retour.
Là c'est quoi, c'est le stress de la demi-finale, un peu la tension en début de match,
la pression?
Non, parce que c'est le premier tour de l'année, demi-finale c'est à 250. Ça va quoi. Il y a dans 10 jours, il y a même Melbourne qui commence. C'est plutôt là où c'est important. Peut-être qu'il s'attendait à jouer Djokovic. Donc de jouer au PK, là il se dit tiens, j'ai un truc à faire. Voilà. Apparemment, il a fait 2 doubles dans le premier jeu. Peut-être que son service est moins bien réglé aujourd'hui. Il faut qu'il trouve ses marques, mais qu'il se fasse breaker pour la première fois du tournoi par Opelka, c'est quand même assez étonnant. Et comme quoi, il fallait pas m'écouter sur le time break.
Si,
ça il peut débriquer.
Ça se joue et puis ça se joue en plusieurs sets quand même, le tennis. Enfin, j'espère en tout cas. Ça n'a pas changé pendant les fêtes. Évidemment, on vous compte ce match à Brisbane, cette demi-finale de Giovanni Mpetshi Perikar. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les GG.
Les grandes gueules du sport et vous.
Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. On accueille Laurent au 32-16. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour.
Tu voulais revenir sur quoi aujourd'hui, Laurent?
Sur le premier débat sur la Ligue 1 est-elle intéressante? De mon point de vue, la Ligue 1 n'est plus du tout intéressante. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de niveau. Moi, je me suis amusé à regarder la première ligue anglaise pendant les fêtes et c'est un autre sport. On n'est plus dans la même cour. Même le dernier de première ligue serait dans les 6 premiers chez nous. Ça joue, ça s'arrête pas. L'arbitrage laisse jouer. Chez nous, on a des cinéastes, des vedettes, des gens qui se roulent par terre. On n'a pas du tout de spectacle. Ce n'est inintéressant. Il n'y a pas de match qui permettent de relever le niveau et d'intéresser le spectateur au foot, d'autant plus qu'on n'a pas de lisibilité sur quand on veut voir un match.
Laurent, tu es supporter d'une équipe ou pas?
Oui, je suis supporter de Marseille.
Ok.
Malheureusement, quand je veux regarder un match de Marseille, je l'écoute à la radio sur France Bleu Provence pour savoir ce qui se passe.
Très bien. Tu sais que tu as RMC aussi. Oui.
Il y a RMC aussi pour écouter.
Bon. Ou RMC. Voilà. Donc, je n'ai pas de spectacle. Je ne prends pas de plaisir à regarder la première division, la Ligue 1 en France, parce qu'il n'y a pas de spectacle et on n'a pas de résultats intéressants sur ce sport-là.
Ah bah, je vais aller voir un supporter de l'OM, là. Est-ce que tu es en accord avec ce que vient de nous dire Laurent ou est-ce que tu le comprends ou non?
J'avais répondu au débat. J'avais dit que oui, elle était moins intéressante, la Ligue 1, que le niveau pour moi est moins bon. Les chiffres le prouvent. Et puis c'est un tout. Je suis assez d'accord aussi sur l'arbitrage. On a un arbitre français qui a été élu
meilleur
arbitre du monde. En Coupe d'Europe, ils sont fantastiques, ils se comportent pas de la même manière. Et j'attends, ça aurait pu être un vœu pour 2025, j'attends avec impatience la sonorisation des arbitres dans le rugby, dans le football, avec une adaptation des règles, voir ce qui se dit entre les arbitres et les joueurs, voir ce que disent les joueurs aux arbitres, comment les joueurs parlent aux arbitres dans le football. Il y a tout un spectacle à revoir un petit peu dans le football français. Effectivement, quand on regarde la Première Ligue pendant ces périodes de fêtes, l'intensité des matchs, l'arbitrage, les joueurs, la qualité, ça n'a rien à voir, ça donne envie, l'enrobé est bon, le contenu est bon, tout est bon. Nous, on est des années-lumière.
Ils ont des droits télé hallucinants.
Des meilleurs joueurs, etc. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se rapprocher de voir ce qui se fait en Bundesliga avec un gros club qui vampirise tout, comme le Bayern Munich qui gagne la coupe ou le championnat très souvent, comme le PSG le fait. Mais pourquoi c'est là-bas? Pourquoi ça marche? Pourquoi il y a du spectacle? Il y a entre une moyenne de 3 buts par match à peu près. Les stades sont pleins. Ils vendent leurs droits domestiques à 1 milliard à des vrais diffuseurs. Voilà, qu'est-ce qui fait que là-bas ça marche?
Les Anglais sont plus passionnés de sport et de foot en particulier que nous. En Angleterre, c'est une véritable passion. Les stades étaient pleins pendant tout le Boxing Day. Ça suscite vraiment un intérêt hallucinant. On n'a plus vraiment en France.
Regarde les fléchettes.
Mais pour le sport en général,
c'était plein à craquer. Tu mets des fléchettes en France, je suis pas sûr que ce soit plein. La salle, elle était. En Angleterre, c'est culturel.
Ouais.
Enfin, ils adorent ça.
Culture du sport, hein.
Ouais, exactement.
Voilà, du sport en général.
Après, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller voir du sport, les Anglais.
On en revient,
on veut de David. Voilà. Vraiment, avec cet élan olympique, un vrai pays de sport. Il a raison, c'est la base de tout. Moi, je voulais faire ça, mais quand David était mieux placé que moi, de par son histoire. Non, mais c'est vrai.
Mais
par ton histoire.
Ton sujet aussi,
de ton vœu 2025, c'est ça?
Ouais, on revient. Mais sur son histoire de champion, sur son historique de champion et sur son carrière politique, il connaît les enjeux mieux que nous. Moi, je voulais faire un truc là-dessus sur les élan olympiques. Et quand David a pris le sujet, c'était normal de le laisser. Mais pour moi, tout est lié. Et là-bas, c'est ça.
Tout est lié, ouais.
Tout est lié. Et là-bas, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on devienne vraiment. L'héritage de Paris 2024 doit être là-dedans. Dans le sport à l'école, dans ce qu'on a changé notre culture par rapport au sport, qu'on devienne un vrai pays de sport.
Ah bah vous avez vu que la nouvelle ministre des Sports était justement bien celle sûr. Qui s'occupait de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc c'est déjà un bon signe.
Ouais, elle se connaît bien, ouais. C'est vrai. Et le sport, on en parle peu, mais la consommation du sport en famille et avec la famille.
Mais bien sûr.
Ça aussi, c'est important.
C'est hyper important. Le nombre de fois.
D'aller au stade avec son père, avec son grand-père, avec
ses parents. Le nombre de fois où je dis non à mon fils. Voilà. On peut pas y aller, c'est trop tard.
Mais c'est à 21h. Mais c'est ça le problème.
Le nombre de fois. 21h10. Je suis là, c'est Tourelle qui disait ça. Quand il était en faveur du PSG. Il disait, mais pourquoi on joue si tard? C'est incroyable.
Alors qu'en Angleterre et en Allemagne, tu joues l'après-midi. Tu joues l'après-midi.
Bien sûr.
Et nous, on a
cette tradition.
Nos diffuseurs,
c'est l'après-midi, Stade français, UBB. À 16h30. Mais je veux y aller avec mon fils. Mais c'est gâteau. Il y a 15 000 personnes, ça va être sympa, c'est bon enfant. À 18h30, c'est terminé. Et là, il fait nuit, il fait des trucs.
C'est pour satisfaire les diffuseurs, ceux qui payent plus beaucoup, mais qui payent encore. Que tu fais les matchs du tournoi. Là, c'est TF1 qui a racheté les matchs de la tournée d'automne. Et ils ont instauré un nouvel horaire. Désormais, c'est 21h15. Ce sera 21h15 pour le tournoi. C'est de plus en plus tard. Bientôt, les matchs vont débuter à 22h. Donc, effectivement,
Tournoi en Angleterre, enfin dans les pays, pareil. Quand tu joues jamais ou peut-être de temps en temps au Pays de Galles, mais quand tu joues en Irlande ou en Angleterre, tu joues à 16h ou 15h, heure locale, les matchs du 15 de France. C'est fantastique. C'est, comme dit David, c'est un autre public, c'est familial. Moi, j'ai eu la chance d'aller une fois, je suis allé voir l'équipe de Philippe Saint-André à Dublin. mais j'étais avec mon frère, mais c'est un souvenir fantastique. Tu vas au stade, c'est pas du tout pareil que quand tu vas au Stade de France à 21h15.
Que tu dois te dépêcher pour prendre le RER. Et que tu balises un peu parce que tu sais jamais quand tu arrives dans certains coins de Paris à minuit et demi.
Et ça, c'est une réflexion globale.
C'est toute une culture à instaurer, ramener les jeunes au stade parce que c'est plus tôt et leur inculquer le fait d'aller au stade.
On parle du stade, mais les salles, c'est pareil, des belles salles. Maintenant, on a de plus en plus de belles salles en France. Donc le basket, ça peut attirer un autre public, etc.
J'ai l'impression qu'on est sur un bureau de travail, là, comme au ping. Exactement. J'ai la sensation qu'on est en train de lancer quelque chose là. Mais... Et j'espère qu'évidemment.
Les états généraux du sport français, avec David Douillet comme président.
Voilà. Ça va leur coûter cher parce qu'il fait payer chaque consultation.
Exactement.
Ça va nous coûter un blé, cette histoire.
Ah, David est passé dans le privé.
J'en ai marre du bénévolat.
C'est différent. Merci beaucoup, les GG. Merci à Laurent d'avoir composé le 32-16. En tout cas, c'était très intéressant de vous entendre sur ce dossier. Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Fred Weiss. On se retrouve demain à partir de 9h pour de nouvelles grandes gueules du sport et de nouveaux débats à vous proposer, évidemment. Et il y en aura, rassurez-vous. Donc...